Dans cette parabole du semeur que Jésus nous a livrée aujourd'hui, vous aurez peut-être remarqué une étrangeté propre à la manière dont le Seigneur sème, à la différence d'un agriculteur plus raisonnable. Le Seigneur, il sème partout. Il sème non seulement dans le champ qui est réputé fertile, mais il sème aussi sur la route, sur le chemin. Il sème dans des terrains caillouteux. Il sème au milieu des ronces. Avez-vous déjà vu un agriculteur raisonnable faire cela? C'est donc que le Seigneur veut semer très largement. Comprenons, il sème la parole pour tout le monde. Tout homme, toute femme peut et doit pouvoir entendre la parole. Elle n'est pas réservée à quelques-uns. Dieu sème partout, sur tous les cœurs. Et pourtant, les fruits ne sont pas les mêmes chez tous. Et je veux m'arrêter aujourd'hui sur deux enseignements difficiles que Jésus donne à ses disciples à propos de cette parabole. Les disciples sont étonnés que Jésus parle en parabole. Pourquoi est-ce que tu parles en parabole? Pourquoi tu ne dis pas les choses plus clairement? Et alors Jésus leur répond ceci: « À vous, mes disciples, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Tandis qu'à ces gens-là, les autres, cela n'est pas donné. » C'est une phrase étrange qui semble dire que l'accès à la connaissance profonde des mystères de la foi n'est pas donné à tous. À vous, mes disciples, il est donné de connaître les mystères. Aux autres, cela n'est pas donné. Cela semble contradictoire avec ce que je viens de dire sur le fait que le Seigneur sème la parole à tout vent. Jésus est très clair. Nul ne peut accueillir ma parole si cela ne lui est pas donné. Donc non seulement la parole est donnée à tous, mais il faut aussi ce mystère d'un don intime, mystérieux, donné dans le cœur de chacun qui permet d'accueillir la parole ou qui ne permet pas de l'accueillir. Donc vous voyez, dans la parole de Dieu, il y a la parole extérieure qui est prêchée à tous. Et puis il y a ce don mystérieux intérieur qui fait que le Seigneur nous aide à accéder à sa parole. Et cela, nous dit Jésus, cela n'est pas donné à tous, puisque les Juifs qui sont là, qui m'ont entendu, qui m'ont vu, ils ne croient pas. Alors que vous, mes disciples, vous croyez. N'y a-t-il pas là quelque injustice ou quelque arbitraire qui fait que Dieu donnerait aux uns de croire et ne le donnerait pas aux autres? Et puis, deuxième parole mystérieuse qui suit immédiatement, par laquelle Jésus essaie d'expliquer ce qu'il vient de dire, car celui qui a, entendez qu'il y a déjà, on lui donnera et il aura du surplus, mais celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera enlevé. Là, franchement, cette parole s'apparente à une inégalité très profonde, dont malheureusement nous avons quelques échos dans le monde qui nous entoure, où les riches sont toujours plus riches parce qu'ils ont toujours plus et du surplus, alors que les pauvres qui n'ont rien ont de moins en moins, et on leur prend le peu qu'il leur reste. Et ils s'appauvrissent toujours plus, ce phénomène terrible d'aujourd'hui, de l'appauvrissement, alors que d'autres deviennent toujours plus riches. Jésus semble entrer dans cette même logique. Celui qui a, on lui donnera. Celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. Alors comment comprendre cette deuxième parole? Qu'est-ce que c'est que ce « celui qui a, on lui donnera » Qu'est-ce qu'il nous faut avoir pour que Dieu puisse nous donner davantage? Et qu'est-ce que c'est que ce « celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a »? Celui qui a, on lui donnera davantage. Celui qui a quoi? Et c'est là qu'il nous faut bien ouvrir les yeux de notre intelligence pour comprendre ce que Jésus veut nous dire aujourd'hui. Celui qui a le désir en lui du salut qui vient de Dieu. Celui qui désire ardemment, au fond de son cœur, même sans le connaître, Il désire le bien parfait, le bien divin, le bien absolu. Il désire ce qui est bon, il désire ce qui est vrai, il désire ce qui est juste. Celui qui a un cœur disposé au bien, lorsque l'Évangile va arriver à ses oreilles, lorsqu'un prédicateur ou d'autres chrétiens vont lui parler de Jésus, alors son cœur va s'ouvrir parce qu'il désire, sans même connaître l'Évangile, il désire ce que Jésus vient nous annoncer. Il le désire inconsciemment, il le désire souvent de manière parfaitement aveugle, mais il le désire, il a en lui cette ouverture du cœur, cette bonté intrinsèque, cette bonté qui vient du fait que Dieu nous a créés tous avec un cœur bon. Et non seulement un cœur bon, mais un cœur qui est fait pour voir Dieu. Un cœur qui naturellement désire le bien. Même si on ne connaît pas Dieu, nous sommes faits pour aller vers ce bien, par naissance. Et donc tout homme qui a en lui, qui a cultivé ce désir du bien, alors lorsque l'Évangile va survenir, il va le reconnaître. Et il va recevoir bien davantage que ce désir. Il va recevoir l'accomplissement de ce désir. Il va recevoir Dieu lui-même qui vient combler cette ardeur, cette attente qui était en lui. Nous pouvons reconnaître bien là comment Jésus s'adressait à ses contemporains. Il y a ceux en Israël qui attendaient très profondément, sans savoir quand et comment se réaliserait le salut, ils attendaient le Messie. C'est la Vierge Marie. Sans le connaître, elle l'attendait. Il possédait déjà l'Ancienne Alliance, il doit recevoir la perfection de l'Ancienne Alliance dans le Christ qui accomplit toute justice. Par contre, ceux qui en Israël avaient un cœur mal disposé, qui n'attendaient pas vraiment Dieu, qui croyaient le connaître et l'enfermer dans une conception étroite de la loi, ceux-là, ils vont perdre même la loi qui va disparaître, puisque Jésus vient dépasser la loi, l'accomplir en plénitude, de sorte qu'ils vont tout perdre. Voilà le sens profond de cette parabole. Il nous faut tout savoir, et ça nous concerne nous aujourd'hui, et au moins par deux aspects. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, dans notre monde très sécularisé, il y ait, on les découvre avec joie, comme des petites fleurs de printemps qui naissent presque sous la neige, dans notre société très sécularisée, comment se fait-il que tant et tant de dizaines de milliers de personnes, de jeunes gens, se mettent à découvrir l'Évangile et à l'accueillir ? C'est que précisément, malgré leur ignorance, malgré l'obscurité dans laquelle ils étaient, ils portaient en eux ce désir. Ils avaient déjà ce désir du bien, ce désir du salut, ce désir d'être sauvés. Cette conviction qu'on ne se sauve pas tout seul, que seul Dieu peut nous donner le pardon des péchés, que seul Dieu peut nous libérer du fardeau intérieur du péché et de la mort et nous ouvrir la vie. Ils avaient ce désir. Et lorsque l'occasion se présente, entrant dans une église, écoutant les paroles d'un ami, se rappelant les paroles d'une grand-mère, tout d'un coup, la lumière se fait, parce que l'Évangile vient rejoindre ce qu'ils avaient déjà, ce désir intime, cette droiture de cœur. Par contre, tant et tant de nous, autour de nous, continuent à vivre sans ce désir, sans désir de transcendance, sans désir de pardon, sans éprouver le besoin d'être sauvé, sans éprouver le besoin de tendre la main vers le Christ. Non, je me sauverai tout seul, je réussirai ma vie tout seul, je gagnerai ma vie seul, je serai heureux seul. Alors cela, même ce qu'ils ont leur sera enlevé, car ils vont inexorablement vers la mort et la mort éternelle, faute de désirer intérieurement ce que Dieu vient leur proposer. Et c'est vrai aussi pour nous chrétiens, c'est pas parce que nous avons une fois reconnu le Christ que nous sommes dégagés de ce besoin de laisser grandir toujours en nous le désir du salut. Parce qu'enfin ce désir peut s'affadir. Il y a parmi nous, je suis peut-être le premier, des chrétiens tièdes qui ne désirent plus vraiment quelque chose de plus, qui se contentent d'une identité chrétienne, de façade, mais intérieurement, le désir ne creuse plus la place pour la grâce. Voilà comment, trop souvent, les chrétientés deviennent fades, tièdes, ne sont plus habitées par un élan spirituel. Et alors, tout cela sera enlevé, parce que seuls grandiront ceux qui ont cette ardeur perpétuelle, ce désir d'une sainteté plus grande. Alors vous l'avez compris, frères et sœurs, il nous importe hautement de savoir bien cultiver, même quand nous sommes chrétiens, la terre qui est notre cœur, car notre cœur peut toujours tendre à se refermer. Il nous faut donc d'abord nous rappeler que comment l'Évangile va pouvoir rejoindre tous ceux qui ne le connaissent pas ? Parce que il y a des actes et il y a des paroles. Les actes, ce ne sont plus ceux de Jésus qui n'est plus présent parmi nous visiblement, les actes sont ceux des chrétiens qui doivent agir de manière à faire voir ce qu'est l'Évangile. Le primat de la charité, l'attention aux plus pauvres, l'exigence absolue du pardon, fuir la guerre, fuir la violence, être artisan de paix, c'est notre mission pour que nous puissions faire voir ce qu'est l'Évangile, de sorte que ceux qui ne le connaissent pas encore seront capables de reconnaître dans l'Église, c'est-à-dire dans le Christ, dont l'Église est le sacrement, savoir reconnaître la vérité de l'Évangile, le désir de paix, le désir de pardon, le désir de miséricorde, ils pourront le reconnaître. Et c'est notre devoir de chrétien de savoir montrer cela, de sorte que ceux qui n'étant pas encore dans l'Église, voyant cela, ayant le désir de cela, verront en voyant, alors que d'autres verront ces actes, mais ne seront pas convaincus et ne viendront pas au Christ. À côté des actes, il y a aussi les paroles. Nous devons être témoins de l'Évangile, le proclamer en vérité pour que ceux qui ont un cœur disposé puissent entendre cette parole. Nous sommes les semeurs que Jésus envoie. Si nous semons des erreurs, des hérésies, des fantaisies à notre goût et ne semons pas la foi de l'Église, jamais des cœurs nouveaux ne pourront accueillir cette parole. Elle ne se correspondra pas à ce qu'ils désirent. Voilà donc notre mission. Et enfin et surtout, nous devons semer en même temps que cultiver la terre de notre cœur pour être sans cesse habité par ce désir, ce zèle, cette chaleur qui nous fait accueillir avec toujours plus d'impatience le don de Dieu. Alors que des chrétiens tièdes, qui ne cherchent plus, qui ne cultivent plus la terre de leur cœur par une vie spirituelle exigeante, ceux-là vont devenir stériles. Non seulement ne produiront pas d'apôtres, ne produiront pas de convertis, mais ils risquent eux-mêmes de se mettre à l'écart, de se disqualifier lorsque viendra le temps de la moisson. Alors entendons finalement ce que nous dit Jésus. Heureux vos yeux, c'est à nous qu'il parle, parce qu'il voit. Heureux nos yeux parce que nous pouvons voir la vérité du Christ resplendir dans sa Sainte Église, dans le corps entier de l'Église. Nous sommes capables d'y reconnaître la vérité du don de Dieu. Heureuses vos oreilles parce qu'elles entendent. Heureux nos oreilles parce qu'elles ont entendu ce matin l'appel à venir ici rejoindre le Seigneur, nous nourrir à la table qu'il dresse pour nous pour répondre à notre désir le plus profond, ce désir d'une vie parfaite, bienheureuse, d'une vie pardonnée, d'une vie remplie de miséricorde, afin d'en témoigner autour de nous. Oui, le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse. À nous de savoir convertir notre cœur en permanence, de manière à aider tant de nos frères et sœurs à se convertir à leur tour, parce qu'ils verront, parce qu'ils entendront ce que nous avons reçu du Christ et que nous leur transmettons inlassablement comme des semeurs généreux, ardents et pleins de confiance. Ainsi soit-il.